Bonsoir. Les Wazalendo qui combattent aux côtés des FARDC dans leur lutte contre le M23 et l'armée rwandaise dans l'est de la RDC constituent une lourde hypothèque politique pour les années à venir car ils militarisent davantage la société, aggravent la crise humanitaire et enracinent le conflit. C'est ce qui ressort du rapport de l'Institut de recherche Ebouteli publié vendredi 16 mai à Kinshasa. Le rapport indique que le phénomène Wazalendo s'inscrit dans la continuité d'une stratégie régionale de longue date visant à externaliser la guerre des groupes armés en raison de la faiblesse des services de sécurité ainsi que des profits potentiels et des dividendes populistes que ce soutien peut apporter aux politiciens. Leurs motivations, selon le document, sont diverses. C'est notamment un sentiment nationaliste, la possibilité d'accéder à des financements et à des postes au sein de l'armée nationale et éventuellement de garantir l'impunité pour leurs crimes passés, détaille l'Institut des recherches Ebouteli. Cependant, une certaine opinion estime que les détails fournis dans ce rapport sont manipulés de l'extérieur par des réseaux de prédation. Quelle lecture faites-vous du rapport publié par Ebouteli? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 19 mai 2025. Participe au débat Rigel Miviri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, JAEC en sigle. Rigel Miviri, bonsoir.
Bonsoir.
Willy Michiki avec moi dans ce studio. Il est député national élu de Walikale. Il est cadre de l'Union Sacrée. Il soutient l'action de Wazalendo. Willy Michiki, bonsoir.
Bonsoir.
Et le professeur Casimir Ngoubi, professeur et politologue, expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Professeur Casimir, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly Kouté. Bonsoir auditeurs de Radio Kapi et la Radio de la Paix.
À Goma, au Nord Kivu, vous nous trouvez sous la 95.5. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net sur DSTV canal 867. Vous pouvez également suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Kapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Toutes nos excuses d'abord pour le retard avec lequel nous commençons cette émission. Je l'ai dit dans le sommaire, le phénomène Wazalendo, entendez par là, patriote, est un soutien aux forces armées de la RDC dans la lutte contre les M23 et l'armée rwandaise dans l'est de la RDC. Mais c'est une bombe à retardement. C'est l'essentiel du rapport de l'Institut des recherches Ebouteli sur ce phénomène, publié vendredi à Kinshasa. Ce rapport examine l'émergence du terme Wazalendo, l'histoire et les raisons de l'externalisation de la violence, ainsi que son impact sur les communautés locales. Grâce à Mzati pour les détails.
Le rapport indique que le phénomène Wazalendo s'inscrit dans la continuité d'une stratégie régionale de longue date visant à externaliser la guerre à des groupes armés en raison de la faiblesse des services de sécurité ainsi que des profits potentiels et des dividendes populistes que ce soutien peut apporter aux politiciens. Confronté à une armée surdimensionnée mais inefficace, Kinshasa a confié la contre-insurrection à une multitude d'acteurs, des sociétés de sécurité privée, l'armée burundaise, les rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR et de nombreux groupes armés congolais désormais communément appelés Wazalendo, souligne le rapport. La plupart des groupes ainsi qualifiés existaient déjà, certains d'entre eux se sont déjà affrontés. Leurs motivations sont diverses. D'une part, un sentiment nationaliste, mais aussi la possibilité d'accéder à des financements et à des postes au sein de l'armée nationale et éventuellement de garantir l'impunité pour leurs crimes passés. Ebouteli estime que le soutien aux groupes armés locaux constituera une lourde hypothèque politique pour les années à venir, car il militarise davantage la société, aggrave la crise humanitaire et enracine le conflit. Le rapport conclut en soulignant l'importance à long terme de réformer l'État congolais, ses forces de sécurité et son approche du conflit.
Merci, grâce à Mzati. Les détails en synthèse fournis par le récent rapport de l'Institut de recherche Boutelis sur le phénomène Wazalendo sont provocateurs et manipulés de l'extérieur par les réseaux de prédation. C'est la réaction de Didier Bitaki, un ancien membre des groupes armés au Nord Kivu, aujourd'hui expert en désarmement et en droit international humanitaire, qualifiant ce rapport de tendancieux. Selon lui, la loi instituant la réserve armée de la défense Radon Ziegler, dont il dit être l'auteur, détermine toutes les modalités et les conditions de fonctionnement de ces Wazalendo qui ne constituent en aucun cas une bombe à retardement. On l'écoute au micro de Grassa Mzati.
Je voudrais poser la question à cet institut. S'il est possible que quelqu'un soit cloué au lit alors qu'il a le moyen de se défendre lorsque sa maison est attaquée. Ce sont des citoyens congolais. Qu'ils soient des anciens membres des groupes armés ou quoi que ce soit, le mot Wazalendo a été prononcé par un général kenyan qui dirigeait la force de l'EAC. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là ne s'appelaient pas Maïmaï par le passé. Et pour cela, ce sont ces Maïmaï-là, répondant à l'appel du chef de l'État, qui ont été regroupés et ont fait leur adhésion personnelle, sans qu'ils y soient contrés, à la réserve armée de la défense. Personne ne peut obliger la République de définir les critères des personnes qui doivent défendre le pays lorsque l'État se retrouve, la nation se retrouve en danger et agressée par une puissance extérieure. La loi définit à la fin de la guerre ce que deviennent ces citoyens. Le gouvernement congolais a prévu des processus par lesquels doivent passer ces gens qui ont pris les armes. Il y a un processus mis en place de désarmement spécifique de personnel et de la réserve armée de la défense. La loi prévoit que ces gens-là retournent dans leur vie quotidienne, dans leurs activités quotidiennes. Est-ce que ce groupe respecte au moins la législation congolaise?
C'était la Didier Bitaki. Rigen Miviri, je rappelle que vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire des recherches du groupe d'études sur le Congo, Jacques Sigle. Vous avez publié vendredi un rapport sur l'émergence du terme Wazalendo, l'histoire, les raisons de l'externalisation de la violence ainsi que son impact sur les communautés locales. Vous dites que les Wazalendo qui combattent aux côtés des FARDC dans leur lutte contre le M23 et l'armée rwandaise dans la partie est de la RDC constitue une lourde hypothèque politique pour les années à venir car il militarise davantage la société, aggrave la crise humanitaire et enracine le conflit. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Sur base de quoi vous faites cette déclaration?
Merci madame pour la question, mais déjà peut-être qu'il est important de préciser que ce rapport fait partie d'une série de rapports d'un projet qu'on appelle Utafiti wa Amani, et nous avons déjà eu d'autres rapports et notamment le premier dans ce projet s'agissait d'analyser la résurgence du M23 et dans ce rapport on a expliqué clairement qu'en fait les origines de cette nouvelle crise sont extérieures à la RDC en tout cas, et qu'elles soient trouvées dans les dynamiques régionales, notamment du côté de l'Ouganda et du Rwanda. Mais par la suite, comme on l'explique dans les rapports notamment, la réaction de la RDC et la réponse gouvernementale à cette agression a été telle que le gouvernement a préféré sous-traiter cette question sécuritaire à deux groupes armés en créant une coalition gouvernementale dans laquelle le gouvernement a inclus les groupes armés. Et bien sûr, on parle du mot Wazalendo qui est un mot qui a une connotation positive dans l'acception congolaise, j'en conviens, mais c'est un mot qu'on a ajouté à une réalité violente qui existait déjà. Gens qui disent que les Wazalendo, ce sont des jeunes qui se sont mobilisés, des Congolais et Congolaises qui ont répondu à l'appel du chef de l'État, c'est en partie vrai, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est aussi des groupes armés qui existent depuis toujours. Et vous pouvez regarder, par exemple, aujourd'hui, une grande majorité des combattants qui ont combattu avec le label Oisalendo dans cette crise viennent des groupes armés qui existaient déjà, que ce soit les NDCR, que ce soit le groupe de APCLS de Janvier, que ce soit tous les différents groupes Nyatura. Et voilà, et ça c'est dans le petit nord. Dans le grand nord, c'est aussi d'autres différents groupes Maïmaï qui existaient depuis toujours. Donc on ne peut pas dire que c'est une nouvelle dynamique et on ne peut même pas dire que c'est des gens qui vont directement se démobiliser après cette crise. On peut tous l'espérer, mais je ne pense pas que ça soit automatique étant donné que c'est des groupes armés qui existent depuis plusieurs années, je m'excuse. Et quand on parle de la RAD, cette loi a été faite après que ce phénomène puisse déjà exister. Donc, la première fois que ces groupes armés se sont mobilisés et ont combattu les M23, et à juste titre, c'était dès le départ en novembre 2021 et en début 2022. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore cette RAD. On peut aussi dire et rajouter que la coalition est venue aussi après. Donc, ces groupes étaient déjà mobilisés. Donc, ça aussi, on le précise dans le rapport. On n'est pas en train de dire que c'est l'État congolais qui a créé ces groupes armés. Non, ces groupes armés existaient déjà et avaient aussi leur propre logique pour combattre les M23 qui venaient prendre de l'espace là où ils avaient déjà ils étaient déjà mobilisés et ils étaient aussi des groupes armés qui occupaient des zones, que ce soit dans le Rutshuru ou dans le Masisi. Maintenant, avec cette crise, on doit reconnaître qu'il y a une nouvelle donne, c'est que en fait ils ont acquis une certaine légitimité étant donné ce nom-là d'Oisalendo, mais étant donné qu'ils ont eu un certain endossement venant de gouvernants et au plus haut de la République aussi, ce qui a fait qu'ils se sont mobilisés pour, bien sûr, combattre cette agression, mais aussi, et comme on le dit dans le rapport, on est en droit de se poser des questions sur la suite de ces phénomènes, étant donné qu'on a vu qu'avec cette remobilisation, on n'a pas forcément vu une coordination cohérente des forces et on n'a pas vu aussi des mesures de garde-fous pour contrôler ces forces après cette crise. Et ça, c'est un débat qui est lancé pour tous les Congolais. On est en droit en tant que Congolais, mais aussi en tant que chercheur de lancer le débat et que les uns et les autres puissent y apporter leur point de vue. Donc on est ouvert à toutes ces discussions qu'on a entendues et ça signifie que c'est une question importante. C'est pour ça que les uns et les autres se mobilisent et veulent y apporter des explications. Et bien sûr, en termes déjà de solutions, comme tous les autres, nous espérons qu'il y aura un processus de démobilisation,
on va parler des solutions dans la deuxième partie de notre émission. Avant de publier ce rapport, j'imagine que vous avez mené vos petites enquêtes, que vous êtes descendu sur les terrains, mais comment la population civile dans les zones affectées perçoivent-elles la présence et l'action des Oisalendo? Sont-ils vus comme des protecteurs, des acteurs des violences supplémentaires ou une combinaison des deux?
La question est plus complexe que ça. Les réponses qui viennent du terrain sont aussi complexes. Donc, autant que les politiques peuvent dire que voilà, ce sont des Congolais qui défendent et qui protègent les populations, quand vous arrivez dans certaines zones, les gens sont plus nuancés, surtout les personnes qui parfois ont aussi été victimes des abus venant de ces acteurs, ils sont plus nuancés sur cette question-là. On peut aussi parler de l'efficacité, on a parlé des succès de Oisalendo dans certains lieux, ce qui est actuel, mais aussi on a vu dans certains endroits où il y avait autant les FARDC qui étaient mobilisés et les Oisalendo, mais quand même, il y a eu aussi des hommes qui sont passés sous contrôle rebelle. Donc voilà, il ne s'agit pas d'une réponse directe au rôle qu'ont joué les Ouazalendo. Il y a des nuances à faire et c'est ce que l'on fait. C'est, le rapport, c'est une synthèse en fait des différents faits, mais aussi des différentes analyses venant des faits qu'on a vu sur terrain dans une dimension très nuancée, mais aussi avec des points de vue qui sont parfois divergents, étant donné les positionnements des uns et des autres, mais aussi étant donné les expériences personnelles avec ces acteurs armés sur terrain.
Alors, dans votre rapport, vous parlez des motivations hein, de ces Ouazalendo et vous dites que ces motivations sont diverses, notamment, c'est notamment un sentiment nationaliste, la possibilité d'accéder à des financements et à des postes au sein de l'armée nationale et éventuellement de garantir l'impunité pour leurs crimes passés. Voilà ce que détaille votre rapport, Rigel Miviri.
Oui, ça c'est quelques-unes de motivations dont on parle, mais le rapport parle de beaucoup d'autres choses. Mais par exemple, sur la question de la légitimité, mais aussi de la possibilité d'accéder à des ressources, c'est une réalité. Pendant la guerre, il y a des ressources qui sont mises à disposition aux acteurs qui sont sur le terrain. Ça peut être des armes, ça peut être de la ration, ça peut être toute forme de ressources. Et ces ressources-là permettent bien sûr à faire la guerre, mais ça peut aussi, dans une certaine mesure, permettre à se renforcer et à continuer à être un acteur important dans l'avenir de ce pays. On l'a vu dans le passé et on est en train de le voir encore dans cette crise. Concernant la question de l'impunité, ce n'est un secret pour personne. Il y a certaines personnes qui sont mobilisées dans ce phénomène de Ouazalendo qui sont sous le coup des mandats d'arrêt et ces mandats d'arrêt n'ont jamais été levés, qui ont été émis d'ailleurs par la justice congolaise. Donc, les dire ainsi, c'est juste reconnaître une réalité sur le terrain et on peut aussi se poser la question de ce que deviendront ces mandats d'arrêt, par exemple, ou les différentes accusations après cette crise.
Alors, vous avez suivi la réaction de
Didier. Encore une fois, question de motivation nationaliste, c'est une réalité. On sait toujours que les Congolais et Congolaises se mobilisent toujours chaque fois que le pays est attaqué, chaque fois que le pays est agressé. Et ce rapport ne vient pas remettre en cause cette réalité-là. Bien sûr, la plupart des gens se sont mobilisés parce qu'ils pensent qu'il est de leur devoir de défendre leur pays. Et ça, on le reconnaît et on l'a vu sur le terrain et les gens le disent clairement. Les gens qui sont mobilisés, ils le présentent comme leur motivation. Mais ça n'empêche d'aller au-delà et de regarder toutes les autres motivations qui le poussent à être sur le terrain et à continuer à se mobiliser.
Alors très très brièvement, Rigel Miviri, comment vous réagissez au point de vue de Didier Bitaki qui pense que votre rapport est provocateur, manipulé de l'extérieur par les réseaux des prédations. Voilà, il qualifie ces rapports de tendancieux.
Bon, c'est son point de vue en tant que Congolais et tous les autres Congolais, ils ont aussi d'autres points de vue et ils vont les exprimer dans ce débat, ce qui est très bien. Donc, je pense que le rapport, bien sûr, il veut provoquer un débat et ça, c'est déjà bien dans une démocratie qui marche. Et voilà, mais sur la question de points de vue qui sont avancés, je pense qu'ils sont basés sur des faits. Et sur la question de savoir l'avenir de Ouazalendo, tous les Congolais, on le doit se poser cette question. Et donc, merci. Personne ne peut empêcher les citoyens congolais de réfléchir et de participer au débat sur cette question.
Merci Rigel Miviri, Willy Michiki, vous êtes député national, élu de Walika Léonore Kivu, vous êtes cadre de l'Union Sacrée. Vous soutenez l'action de Ouazalendo Comment d'abord vous avez reçu ou vous analysez ce rapport publié par Ebouteli?
Oui, d'abord, je salue d'abord mes co-débatteurs, je salue aussi les auditrices et auditeurs qui nous suivent présentement. Je voudrais dire ici que ce rapport n'a pas été une surprise pour nous, Madame Kelly, puisque nous sommes habitués à ce genre de choses, des petits jeux de ping-pong. Chaque fois qu'il y a des enjeux importants, il y a l'extérieur qui tire toujours ficelle et qui cherche à fragiliser les maillots faibles. Et partant de Ebouteli, comme à Lingala, on l'appelle escalier, c'est un institut congolais de recherche. Mais vous allez trouver là-bas, il y a des Sud-Africains comme Joshua Walker, dont nous connaissons ses proximités à côté de Kabila. Et nous allons Pierre Bouissoualé, qui a travaillé avec Jeune Afrique, que je connais personnellement, puisqu'il a fait des articles pour nous à l'époque, lorsque nous étions dans le gouvernement Kabila, pour nous blanchir. Et Trésor Kibangala, qui est directeur, Kibangula, qui est directeur de. Et même mon propre neveu, qui est aussi directeur de Ebouteli. Et Lick et Fred Ba, ou ma plutôt. Donc nous connaissons, ce sont des brillants Congolais qui sont manipulés, malheureusement, par les puissances étrangères pour leurs intérêts. Vous verrez ici, la plupart viennent de Lucha, viennent des associations qui bénéficient des financements. Et pour avoir ces financements-là, il faut préparer. L'enjeu, c'est quoi aujourd'hui? C'est que la montée en puissance des Ouazalais nous dérange beaucoup. Personne ne s'attendait à cette résistance. Il faut dire, madame, que si aujourd'hui il y a résistance à l'Est, si l'ennemi n'est pas parvenu à faire tomber Kinshasa aujourd'hui, c'est à cause de Ouazalène. C'est un secret des polichinelles. Et cela dérange. Il faut les
essayer. La question que cet institut se pose n'est pas légitime, n'est pas fondamentale.
Oui, le problème n'est pas... Ils ont profité des vrais problèmes. C'est vrai, même nous, les Ouazalènes, nous sommes aujourd'hui préoccupés par notre avenir politique. Pourquoi les Ouazalènes ne sont pas aujourd'hui et impliqués dans le processus de Doha, de Washington DC, puisqu'ils sont des forces combattantes comme le M23, AFC. Pourquoi seulement à Doha on a invité AFC? Et à Doha, je rappelle ici à passage que le processus de Doha, c'était entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Mais lorsque le président Kagame est arrivé là-bas, il a exigé la présence de l'AFC et M23. Les chefs de l'État congolais devraient aussi exiger que les Ouazalènes, puisque si aujourd'hui il y a un accord qui est trouvé entre AFC et M23 et gouvernement du Rwanda et gouvernement de la RDC, mais les Ouazalènes ne sont pas impliqués, concerné, ça va poser un problème.
Mais le Ouazalendo est un soutien de FARDC. Pourquoi on devrait les impliquer, Willy Michiti?
Oui, d'abord, c'est ça l'erreur. Aujourd'hui, qui est le patron de M23 AFC? Monsieur Kagame, c'est les Rwandais qui les manipulent, ils n'ont rien. Sans les Rwandais, que valent AFC et M23, il ne valait rien.
En tout cas, pour Nanga, ce n'est pas Kagame. Hein?
Mais on voit ce terrain, nous sommes de là, et ce n'est pas la première fois. CNDP-7, c'était la même chose, tous ces mouvements qui ont précédé. Donc, les problèmes aujourd'hui, les vrais dangers, nous sommes préoccupés par l'avenir de Ouazalendo. D'ailleurs, mes collègues, honorables Bitaki, honorables Bitakwira et Pascal Bitika, nous sommes en train aujourd'hui d'organiser une conférence sur l'avenir de Ouazalendo. Puisque les Ouazalendo ne vont pas rester dans la brousse, ne vont pas rester toujours comme un groupe armé. Il faudrait, moi-même j'avais déjà anticipé au niveau de l'Assemblée nationale, j'avais déposé des propositions de loi pour les intégrer dans les efforts de feu de la police. Parce que ce que les gens ne disent pas beaucoup, le grand commandant, la plupart de ces commandants de mouvement Ouazalendo sont des ex-FARC, des ex-de l'armée de Mobutu, qui sont très bien formés.
Mais ce sont des vrais militaires. Beaucoup aussi sont des maïmaïs qui n'ont aucune formation. Et d'autres sont même sous mandat d'arrêt.
Oui, madame, même aujourd'hui, il y a les mandats d'arrêt auxquels on fait allusion. Ce sont des mandats d'arrêt, la plupart sont des mandats d'arrêt fantaisistes, que les Rwandais, lorsque les Rwandais étaient piqués, ces gens-là se battent depuis 30 ans. Ça fait 3 décennies qu'ils se battent. Le gouvernement actuel les a trouvés, les FARDC les ont trouvés sur le terrain. Et les Ouazalendo, contrairement à l'analyse biaisée et politisé de mon jeune frère maître
Miviri,
les Wazalendo ne se battent pas pour le pouvoir. Les Wazalendo se battent pour conserver la terre de leurs ancêtres. C'est ça la dimension différente. C'est pourquoi il est difficile...
Sans rien attendre en retour.
Oui, non, ils n'attendent et ils ont qu'un seul problème, à éviter à ce que l'agresseur ne puisse occuper la terre de... Ils n'ont aucune ambition politique. Aucun Wazalendo ne vous dira qu'il veut venir à Kinshasa prendre le pouvoir, alors qu'ils se sont toujours battus contre le pouvoir. Et lorsque le pouvoir les attaquait, c'est plus qu'ils s'attaquaient au Rwanda. Le combat de Wazalendo n'a pas commencé aujourd'hui. Et c'est ça qui dérange justement tous ces centres de recherche. Quand je vois aujourd'hui M. Boisselé, que je connais depuis Jeune Afrique, ce sont des gens qui sont payés pour ce genre de travail. L'objectif aujourd'hui, c'est d'exclure les Wazalendo des discussions qui vont se passer. Et à Washington et à Doha. Alors, et lorsqu'ils seront inscrits, ça n'ira pas, donc ça posera plus que pour eux. Lorsqu'il y a conflit, ils sont payés. S'il n'y a pas conflit, toutes ces ONG ici ne seront pas payées. Demandez à M. Miviri qui les finance. Demandez-lui.
Voilà, on va poser la question à Miviri. Mais qui finance les Wazalendo? Qui contrôle leurs activités? Qui les arme? Willy Michiki.
D'abord, il faut d'abord dire que les Wazalendo, bon, faut dire d'abord que le mot Wazalendo, c'est un mot kenyan, et donc à Swahili. Vous rappelez-vous qu'il y a le troisième plus grand parti politique de la Tanzanie, s'appelle Parti Wazalendo. Donc c'est le parti des patriotes, ce sont des patriotes. Mais nous, on a vécu, nous, les Maïmaï. Ce sont des Maïmaï. Et l'air, qui les finance? Ça, c'est une très belle question. Je vous dis que le gouvernement ne finance pas. Les Wazalendo. Je vous dis, moi, en tant que député national, les Wazalendo ont réussi à se... Je prends le cas de chez moi, puisque au fait, il faut dire qu'ils ne sont pas les mêmes. Chez moi, Wadikal, par exemple, ça fait plus de 3 décennies qu'ils sont là. Et nous payons. Chaque citoyen paye 1000 francs pour les servir. Et c'est parce que la plupart des zones qu'ils contrôlent, il n'y a pas de service d'impôt, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de police. C'est eux qui assurent. Et ça, il faut faire la différence. C'est ça, en fait, la différence entre les Wazalendo du Nord et ceux qui vont de Maniema et les Wazalendo de l'Ituri. Ceux de l'Ituri s'entretuent, ils commettent des dégâts. Chez nous, non, ils protègent les citoyens. Ils
sont même... L'État n'existe pas chez vous, avant même la chute hein, de certains de Bukavu et Goma. L'État n'existe pas.
Non, l'État existe. C'est ça, moi, j'ai dit que la vérité, c'est quoi? Ici, si les FARDC aujourd'hui ont fait, je peux dire quelque chose comme calumet de paix avec les Wazalendo, c'est parce qu'ils ont compris que l'ennemi que Wazalendo combattait depuis 30 ans et que les forces armées régulières combattaient les Wazalendo puisqu'ils combattaient les Rwandais. Et lorsqu'ils ont eu les mêmes ennemis, la même cible, ils se sont unis. C'est tout à fait évident. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que le combat de Wazalendo n'a rien avec une attente d'un poste dans l'armée. Ils ne sont même pas intéressés. Au contraire, nous, parmi les solutions, nous avons pensé qu'il faut mettre fin.
On va parler des solutions, Willy Michiki. Alors, je reviens sur le financement. Donc, c'est la population qui s'organise.
C'est la population. Moi-même, je vous dis, je continue.
Et les armes, c'est vous qui...
Les armes, c'est pas un secret. C'est pas un secret, les armes. Les Wazalendo s'organisent, comme nous avions profité de la faiblesse de l'armée de Kabila, on achetait les armes de Kabila et les munitions. C'est pas un secret, nous l'avons dit tout.
Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, justement, mais ce sont les mêmes armes-là que nous prenons des agresseurs lorsque on organise des attaques contre les positions des forces ennemies, notamment l'armée rwandaise et leur supplétif. Nous prenons les armes et munitions là-bas. Je peux vous dire, par exemple, à Walikal, ici, on a eu, avec l'incursion de M23 AFC, on a eu des munitions qui peuvent nous permettre de pouvoir tenir même pendant une année.
Mais comment, vous, expliquez, comment vous expliquez ces affrontements qu'il y a eu dernièrement entre les FARDC et les Wazalendo?
Oui, justement, maintenant, il faut le dire. Moi, je l'ai dit tout haut ici. Il y a certaines affaires FARDC qui sont manipulées, qui ont été corrompues par les pouvoirs. Vous savez que l'armée actuelle FARDC, à 80%, c'est l'œuvre de Kabila. Il y a certains commandants qui sont redevables à Kabila et que Kabila et ses hommes les utilisent. Quand vous avez vu les villes tomber comme ça, comme des mouches, pourquoi Walikal n'est pas tombé? C'est parce que les Wazalendo ont bloqué l'entrée de l'ennemi. Donc, c'est là il faut. Vous avez suivi même un commandant à Nkulu, d'Ouvira qui a fouillé avec les salaires, la solde des militaires vers les camps ennemis. Donc c'est pas un secret, je ne dis pas que c'est tous les militaires des états de fer, mais il y a certains qui sont encore aujourd'hui redevables à Kabila.
Et ceux-là qui s'affrontent, c'est eux qui s'affrontent avec...
C'est eux qui manipulent, qui créent, même récemment à Lobutu, il y a un commandant là-bas, Patrick, qui est un kabiliste pire, qui est le commandant de Punya Lobutu, qui a provoqué les Wazalendo envie de créer des problèmes. Parce que le fait que les Wazalendo soutiennent le régime aujourd'hui n'arrange pas beaucoup de gens.
Merci.
C'est pourquoi nous avons toujours demandé au gouvernement de laisser les Wazalendo utiliser leur méthode qu'ils utilisaient, qu'ils ont résisté pendant 30 ans.
Merci. On va vous redonner la parole tout à l'heure. Professeur Casimir Ngoubi, vous êtes professeur et politologue, expert dans les domaines des violences politiques et groupes armés. Professeur, comment vous analysez ce rapport publié par Ebouteli?
Merci beaucoup, madame. Je voudrais saluer aussi les co-débatteurs et une fois de plus les auditeurs de la radio Okapi. Nous ne pouvons mieux comprendre les Wazalendo qu'en nous situant dans le contexte des guerres à répétition en République démocratique du Congo. Aux origines, lorsqu'en 1996, la population de l'Est s'est trouvée abandonnée à elle-même, insécurisée et envahie par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, la prise d'armes par la population était justifié par la lutte contre l'agression étrangère. C'est ce qui leur a conféré le qualificatif de groupe d'autodéfense. Quoique ne possédant pas des armes sophistiquées, les patriotes Wazalendo ont des atouts énormes, Madame Kelly. Tenez, la mobilité facile, étant donné qu'ils connaissent mieux le terrain. Ils entretiennent des liens solides avec la population qui leur fournit des informations fiables. Ils partagent souvent la langue et le mœurs dans la région. Et donc, la population se retrouve dans leurs revendications, notamment le contrôle des terres de leurs ancêtres, motivation géopolitique de la lutte ou du combat mené par les Wazalendo. En outre, Madame Kelly, je ne suis pas d'avis que tous les groupes Wazalendo sont pro-gouvernementaux ou mutualisent avec les forces, les FARDC. Certains allient aux FARDC, d'autres seraient neutres, d'autres encore auraient des motivations lucratives. Donc, les Wazalendo affairistes. Bref, il existe des alliances de toutes sortes et des motivations, soit avouées, soit inavouées. Les analyses rigoureuses faites à l'encontre des Wazalendo, Madame Kelly, par l'extérieur ou l'opinion internationale, tendent à discréditer les patriotes dans la mesure où ils rendent difficile l'exécution de leurs projets. Les armes lourdes et les chars utilisés par les rebelles visent à anéantir les prétentions des Wazalendo. Plusieurs questions viennent à l'esprit des observateurs. Alors que Rutshuru était déjà sous contrôle du M23, comment les Wazalendo peuvent-ils chercher à remettre la pendule à l'heure dans cette partie du pays, donc à Rutshuru? Une autre question que je me pose, Madame Kelly, entre les Wazalendo et les groupes armés étrangers, les multinationales et les pays voisins, qui ont le plus militarisé l'Est de la RDC? C'est vraiment que Bouteli réponde à cette question. Qu'on le veuille ou non, la guerre menée par les Wazalendo ne considère pas le gouvernement comme cible. Ça, il faut déjà le comprendre. Les Wazalendo ou le wazalendisme, je ne sais pas comment je peux le dire, est une expression d'une dynamique sociale aux motivations diverses, justifiée par l'agression dont le pays est victime. Et donc les autres acteurs internes ou externes voient dans les Wazalendo, selon qu'ils sont pour ou contre l'agression dans les pays victimes, madame Kelly.
Alors, professeur,
voilà un peu la lecture,
professeur,
comment vous répondez
à Christian Mukendi, par exemple, qui nous écrit sur Facebook, qui dit les Wazalendo constituent une menace pour les années à venir. Aujourd'hui, ils sont patriotes. Demain, ils deviendront des nébuleuses. On connaît tous comment ça se passe dans notre pays. Comment vous répondez à cet auditeur?
Non, moi, je crois que c'est faux, c'est faux. Ce qui constitue la nébuleuse à l'est de la RDC ou dans la région de Grand Lac, on le sait, c'est des grandes puissances, c'est des multinationales qui viennent piller l'est à l'est de la RDC. Et donc, si les Ouazalendo peuvent présenter des menaces à 10%, mais les autres présentent des menaces à 90% à l'est de la RDC.
Il y a quelques années, professeur, c'est même moi, les Ouazalendo, on les a appelés les Maïmaï, parce que ce sont les Maïmaï en grande partie qui constituent c'est les Ouazalendo aujourd'hui. Et certains leaders de ces groupes sont sous sanctions. Certains ont des mandats d'arrêt. Est-ce qu'à l'avenir, on ne peut pas craindre que ces gens se retourne contre le gouvernement?
Non, mais je crois qu'il faut mener des études scientifiques rigoureuses pour identifier l'action des Ouazalendo. Je ne suis pas en train de considérer qu'ils sont des anges, mais les brebis galeuses peuvent se retrouver dans les rangs des Ouazalendo. Mais je répète, les Ouazalendo constituent.
Professeur Ngoubi? Professeur, est-ce que vous êtes en ligne? Je crois qu'on a un petit souci de connexion avec la ligne du professeur Ngoubi. Avant de le reprendre, on va ouvrir le standard. Hein. On va en profiter pour ouvrir les standards et écouter ces auditrices et auditeurs qui sont très très nombreux à nous suivre à travers toute la RDC, même en dehors du Congo. Hein. Ils sont nombreux à suivre cette émission. On va aller à Bukavu, au sud Kivu. Pour écouter ce premier auditeur qui est déjà en ligne.
Bonsoir Radio Okapi, moi c'est Fikir Chumba, je vous appelle depuis Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Ce rapport publié par Ebouteli est une énième conspiration dont la RDC est victime depuis longtemps. Les ennemis de notre pays veulent saper les efforts des Congolais à sauvegarder leur territoire. On ne peut pas demander à un peuple à regarder en spectateur l'envahissement de leur pays. Pour moi, c'est un non-sens. Et tant que la RDC restera victime, le phénomène Ouazalendo va continuer à s'enraciner dans la tête des Congolais. Qu'on les veuille ou pas, la protection de notre pays est une affaire de tous les Congolais et toutes les Congolaises. C'est pourquoi je demande à la jeunesse congolaise de ne jamais prêter oreille à des rapports manipulables.
Rigel Miviri, comment vous réagissez au propos de cet auditeur?
Permettez-moi, madame, d'abord de faire une remarque générale. Donc, je constate déjà que la plupart des réactions sur ce rapport ne sont pas fondées sur le contenu du rapport. Je ne suis pas sûr que les gens qui les commentent l'ont vraiment lu. Donc, ça, c'est dommage. Et la deuxième remarque, c'est de dire que je comprends que dans un contexte actuel où on est en pleine crise, que les gens ne puissent pas forcément être ouverts à un débat sur des questions si sensibles. En tant que Congolais, je le comprends. Mais en même temps, je ne pense pas que la solution, c'est de tomber dans la propagande ou dans des accusations gratuites. Je pense qu'on devrait élever le niveau du débat et ça aiderait ce pays et ça aiderait cette jeune démocratie pour nous tous. Voilà les quelques remarques générales. Mais alors, pour revenir sur le sujet, je voudrais dire ici clairement que personne ne remet en cause la légitimité du peuple congolais de défendre son territoire et la légitimité des uns des autres de protéger les civils. Là n'est pas la question du rapport. La question du rapport, c'est sur les comment et sur l'avenir. Et personne ici ne va nous contredire qu'il y a eu des ratés dans la façon dont on a répondu à cette agression. La preuve, c'est que on voit les résultats sur le terrain. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et donc, avoir une discussion froide sur ces questions pour améliorer le système de sécurité du Congo et pour protéger notre nation, je ne pense pas que cela soit interdit et je ne pense pas que la propagande puisse aider à y arriver. Alors, à ce qui concerne aussi le reproche qui sont faits aux uns et aux autres, je pense que c'est normal dans un contexte actuel et les débats qui viennent, les points de vue qui sont divergents, parfois aussi reflètent les positionnements des gens. Donc, je ne pense pas que quelqu'un qui a vécu cette crise à Goma les trois ou les quatre derniers mois aura le point de vue de quelqu'un qui vit dans une villa quelque part à la Gombe. Peut-être qu'aussi il faut se poser des questions sur dans quelle mesure cette crise nous touche en tant que Congolais. Elle nous touche nous tous, mais peut-être qu'elle nous touche différemment et c'est pour ça que parfois on a des sensibilités différentes sur des questions sensibles comme celle-ci. Et parfois il manque même de... Je pense que c'est un manque d'empathie de parler de cette question comme si, voilà, dire que voilà, il n'y a pas de problème avec la surmilitarisation de Ouazalendo. Pourtant, il y a des gens clairement qui ont vécu des choses sur le terrain et qui voudraient que le gouvernement prenne ses responsabilités. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, celui qui a la responsabilité de protéger les civils, c'est le gouvernement congolais. Et s'il sous-traite cette responsabilité à qui que ce soit, c'est à lui de se rassurer qu'il a mis de garde-fous pour que ceci soit fait dans le respect des droits humains, mais aussi dans le respect de notre constitution. Voilà ma petite réaction à ce qui a été dit, et encore une fois pour réitérer et dire qu'en fait, on doit rehausser le niveau du débat, et le débat doit être quand même de qualité, et merci, que les accusations gratuites et les invectives ne méritent en rien, et surtout les théories du complot, je pense que on est assez mature maintenant, les Congolais sont assez matures pour tomber si bas ou pour être embrigadés dans cette propagande-là.
Merci. Merci. On va aller cette fois-ci à Kisangani dans la province de la Tchopo pour écouter cet autre auditeur.
Je m'appelle Benjamin Melima Melingo. Je vous appelle à partir de Kisangani dans la province de la Tchopo. Déjà, nous avons des groupes armés en quantité industrielle que nous sommes incapables de maîtriser jusqu'à ce jour. Comme si cela ne suffisait pas, nous venons d'ajouter les Ouazalendo, dont certains commencent à imposer leurs lois sous l'œil impuissant des services de sécurité. Ce qui est plus grave, ces gens sont recrutés sans aucune formation et le nombre est difficilement maîtrisable. En lieu et place des Ouazalendo, il aurait fallu avoir des réservistes au sein de l'armée pour parer à toute éventualité. Fort malheureusement, on vient d'ajouter un autre problème qui nous sera difficile de gérer dans l'avenir, d'autant plus que certaines localités échappent au contrôle de l'armée jusqu'à ce jour, parce que certains se proclament maîtres, notamment les Mobondo, les Zaïre, ainsi que les Ouazalène.
Oui, les Meshiki.
Oui, je voudrais d'abord rassurer l'intervenant tout à l'heure, Milima Milingo, qui en fait ce qu'on appelle Ouazalendo aujourd'hui, ce sont les Maïmaï. Mais seulement, comme il fallait maintenant inicité dans les opérations, qu'on les a appelés aujourd'hui patriotes Ouazalendo, pour avoir la même appellation. Sinon, il y avait Maïmaï Kilima, Maïmaï ceci, Maïmaï ceci, etc. Voilà. Et je voudrais dire aussi, lorsqu'on dit qu'on a multiplié, on n'a pas multiplié. Ce sont presque les mêmes qui existaient depuis longtemps. Ce produit-là, c'est plus que autant que plus l'agression s'agrandit, plus il y a aussi des résistants. La solution, bon, on va en parler
allez-y,
après.
Allez-y, parlez de solution directement.
La solution aujourd'hui, d'abord, c'est la mauvaise gouvernance. Puisque s'il y avait une bonne gouvernance, depuis l'époque de Mobutu, on n'aurait pas aujourd'hui des Ouazalendo. Des Maïmaï devenus Ouazalendo après. Deuxième chose, il faut savoir les gérer. La plupart sont des jeunes gens qui n'ont pas accès aux études ou qui les parents n'ont pas de moyens pour pouvoir les prendre en charge ou prendre en charge leur éducation. Alors, ce sont des produits, c'est-à-dire, mais dire que ce sont des voyous, non, ce ne sont pas des voyous. Ce sont des responsables, ils ne sont pas des bandits. Et d'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas les Wavalendo, parmi les critères, un vrai Mousalendo ne peut pas voler, ne peut pas tuer, ne peut pas faire du mal.
Et donc, un vrai Mousalendo... Il y a la population, dans certains cas, la population se plaint. Des agissements des Wazalendo, certains Wazalendo.
Bon, certes, il y a quelques cas isolés, mais l'idéologie de Wazalendo, c'est quelqu'un qui est patriote, qui aime son pays et qui ne peut pas faire du mal à son pays. Je voudrais rassurer l'intervenant et tout à l'heure que les Wazalendo, en fait, sont en train de se réorganiser. Évidemment, ce n'est pas facile puisqu'il y a tout un combat. Nous sommes très combattus. Les Wazalendo sont très combattus, même en interne, même par certains membres du gouvernement ici, même certains FARDC qui sont avec nous, puisqu'ils trouvent à Wazalendo un conquérant. C'est pourquoi nous avons pensé et qu'il ne faudrait pas qu'il reste dans cet état. Il est temps maintenant aujourd'hui de pouvoir voir comment on peut soit les intégrer dans l'armée et dans la police, et d'autres les ramener vers une réinsertion sociale. Et RAD est déjà la première solution aujourd'hui. Il y a beaucoup de ex-Wazalendo qui ont rejoint RAD. On a même tout un bataillon qu'on vient de former au centre de bureau et à la base militaire de Birou à Walikale. Donc le processus continue. Mais l'idée pour nous serait que les RAD soient indépendants des FARDC, du commandement des FARDC, que ça dépende directement du chef de l'État qui est le commandant suprême. Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'au niveau de l'État-major général, il y a une sorte de concurrence. On trouve à Wazalendo un conquérant. Alors que le chef de l'État, en tant que garant de la nation, en tant que commandant suprême des FARDC et de la police nationale, il a une autre vision. Et les RAD aujourd'hui...
Mais vous n'allez pas substituer les Wazalendo aux forces armées de la RDC quand même,
non, Willy Michiki. Pas du tout.
On a une armée en RDC.
Non, pas du tout. C'est comme ça que nous disons qu'il ne faudrait pas mélanger les Wazalendo, les RAD aux FARDC. Les FARDC ont une mission bien déterminée par la Constitution, par les lois de la République, notamment la loi sur l'organisation et le fonctionnement des FARDC. Il faudrait laisser les Wazalendo opérer comme ils l'ont toujours fait. C'est ça, l'erreur aujourd'hui c'est quoi? Et c'est ça même qui a fait que dans certains coins, les Wazalendo deviennent faibles, puisqu'on les associe aux FARDC et à la PENS. Même s'ils sont des alliés, il fallait les opérer. La preuve, depuis 30 ans, ils ont tenu contre l'agression.
Le ministre de la Défense a critiqué l'attitude de certains politiciens originaires, notamment Ouvira, qu'il accuse d'être motivé par des objectifs lucratifs, prétendant être capable de mobiliser les combattants Wazalendo pour l'intérêt national.
Bon, je ne peux pas revenir sur ce débat-là, qui est un débat individuel, je peux dire, entre les VPM que j'aime bien et mon ami Bitakwira.
Non,
Il est vrai qu'il y a des opportunistes aussi en politique qui voudraient se servir de ces combats de Wazalendo. Il y en a, je le confirme, il y en a. Mais ce n'est pas partout, ça ne sait pas. Par exemple, moi je suis député national. Qu'est-ce que je vais avoir chez Wazalendo? C'est mon combat, même avant d'être député national, lors de 1+4. C'est moi qui ai fait les ordres de bataille. La plupart des généraux, des officiers supérieurs, ils ont été faits dans mon bureau ici à Kinshasa. Donc on a commencé ce combat depuis longtemps.
Officiers de Wazalendo, officiers supérieurs
Wazalendo. Oui, qui ont intégré les efforts de faire la PNC dans les processus d'intégration. Nous avons été à San Citri, nous avons été partout. Donc c'est tout un combat qui continue. Mais il y a aujourd'hui déjà, qui c'est vrai, chercher à utiliser les phénomènes Wazalendo comme un tremplin. Et c'est malheureux.
Merci. On va prendre ce dernier auditeur très rapidement parce que nous tendons vraiment à la fin de l'émission. Le prof est là, il est en ligne. Professeur, vous êtes là?
Affirmatif, Madame Kelly.
Ok, on va prendre pour vous très rapidement ce dernier auditeur.
Junior Bompongo depuis la ville province de Kinshasa. La véritable question soulevée par les rapports de Boutelli ne se limite pas à une simple dénonciation du phénomène Ouazalendo. Elle interpelle directement la responsabilité politique de l'État congolais. La vraie problématique est donc celle de l'air intégration, démobilisation ou encadrement après la guerre. Comment éviter qu'ils ne deviennent une armée dans une autre? Un nouveau défi sécuritaire, il faudra un plan clair de désarmement, de réinsertion et de justice transitionnelle.
Alors, professeur, comment vous réagissez?
Non, non, l'interpellation devait être objective, hein. Vraiment, c'est vraiment la grande faiblesse de ce rapport. C'est qu'on a compris que l'interpellation n'a pas été totalement objective, mais partielle.
Mais la donc, réaction, dire, par madame, rapport à la réaction de l'auditeur.
Oui, c'est ce que j'ai dit, parce que l'auditeur estime que les choses ne l'ont pas été et comme il se devait, Boutelli avait raison, et qu'on a vu qu'une partie de regard ou des lunettes de Boutelli, mais moi j'ai dit non. Il faut considérer les choses de manière globale, parler de la dynamique de la guerre de l'Est qui pratiquement justifie ce qui est aujourd'hui là-bas. Et donc, être partiel et ne pas voir les choses de l'autre côté suppose tout simplement qu'on n'a pas bien porté les lunettes. C'est pratiquement ma lecture hein, en tant que chercheur.
Mais ces rapports, dans ce rapport, parmi les motivations, on parle de sentiments nationalistes, professeur. Ça veut dire qu'on a tenu compte de ce sentiment nationaliste-là, de ces patriotes qui veulent voir leur pays ne pas tomber entre les mains de l'agresseur.
Affirmatif, madame. C'est pourquoi j'ai parlé de motivations géopolitiques, la défense des terres de leurs ancêtres. Voilà.
Mais Boutelli a repris ça, puisque vous dites que ce rapport est partiel, quoi.
Non, là où Boutelli pèse un tout petit peu, c'est quand il nous présente une prophétie de malheur. Pour dire toutes choses étant égales, si on laisse les Ouazalendo continuer, et bon, ils vont militariser tout l'espace de l'Est, alors que je dis que le multinational, les voisins, les pays voisins, et beaucoup d'autres acteurs ont le plus militarisé. Les groupes armés étrangers qui œuvrent à l'Est de la RDC ont plus militarisé cet espace que les Ouazalendo. C'est ça. Il ne faut pas que nous tombions dans le piège des animaux malades de la peste où il n'y avait que l'âne qui n'a brûlé que l'herbe qui était condamnée alors que le lion qui a brûlé votre mouton n'a pas été condamné. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça.
Alors vous allez conclure, professeur, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
La conclusion, c'est si la guerre s'arrêtait, les Ouazalendo aussi seraient facilement maîtrisés. Ma condition que les politiques se réconcilient et regardent dans la même suite de bonne gouvernance.
Merci, professeur Casimir Ngoubi, Rigen Miviri. Vous avez la parole hein, pour votre mot de la fin.
Oui, déjà peut-être qu'il faut rappeler en fait qu'il y a un État congolais et en tout cas l'État congolais devrait être celui qui est responsable de la sécurité de nous tous et de l'intégrité de cet État. Et donc idéalement l'État devrait encore reprendre ses prérogatives et dans ce cas-là, aujourd'hui on ne parlerait pas en fait des autres acteurs non étatiques qui s'érogent ce rôle-là de défendre les peuples ici et là. Donc, moi, je pense que, bien sûr, la solution, c'est dans la construction d'un État, la construction d'une armée républicaine, une vraie armée, en fait, et poursuivre de vraies réformes sécuritaires. Mais, en fait, ce phénomène, comme on l'a dit encore, il vient nous ramener un peu derrière alors qu'on était sur un chemin de construction de l'État, mais aussi de faire des réformes. Encore une fois, pour rappeler à ceux qui n'ont pas lu le rapport et qui ont réagi sur le rapport, parce qu'avant ce rapport, on a fait un autre rapport sur le M23 et on a expliqué tout ce qui s'est passé, on a expliqué les motivations de cette agression, on a bien expliqué le rôle important que joue le Rwanda et on a essayé de tirer aussi les conséquences et faire des recommandations à l'État congolais. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'on est partial parce que comme on l'a dit dans ce vaste projet de Graffiti à Amani, on a eu autant de rapports sur ce phénomène Ouazalendo, on a eu de rapports sur M23, on a eu aussi d'autres rapports sur d'autres crises, parce que là on parle beaucoup plus de la crise M23, mais il y a aussi d'autres crises qui sont importantes comme la crise des ADF qui tue chaque jour des Congolais.
Merci,
et souvent Rigel
Miviri. Merci beaucoup, on vous a suivi. Nous, on court derrière le temps. Votre conclusion, hein, Willy Nishiki.
Oui, comme nous parlons de solutions, la première, d'abord, il faudrait impliquer le Ouazalendo dans tout le processus de paix, puisque le Ouazalendo constitue une des forces belligérantes sur le terrain.
Deuxièmement,
et les exclure aujourd'hui, ça pose un problème. Vous avez vu que les Ouazalendo ne sont pas, à Lomé. Et puis, je voudrais aussi revenir sur le RAD, c'est une solution intermédiaire, mais la solution définitive, c'est de les intégrer dans l'armée et dans la police. Et ceux-là qui ne seront pas disposés à prendre des armes ou à servir les drapeaux, on peut les récupérer à travers le programme de réinsertion sociale et communautaire.
Merci, Willy Mishiki, Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Clément Chimanga, Hervé Voka, Polydor Basunga, Martin Sebouchangwe a supervisé ce programme. Guy Maté, Étienne Lissoumbou et Benjamin Moudoumbi m'ont aidé à préparer ce magazine. Présentation et coordination, Kéline Couté, restez branchés sur Radio Capi.